Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP dans cette nouvelle émission de Famille, Justice, Enfance avec trois invités exceptionnels aujourd'hui. L'actualité dont nous vous parlerons un tout petit peu après, mais pas trop, mais un peu quand même, fait que nous avons devant nous Hélène Lombard, Stéphane Brivadi et Patrick Lekens du collectif Action Vérité et Hélène Lombard du site Délivrer nos enfants. Honneur aux dames, Hélène, bonjour, ça va ?
Bonjour, merci Stéphane de nous recevoir.
Eh bien, merci de venir dans le studio, même si tu es venu pour des raisons d'urgence, mais au moins tu es là, donc on en profite. Voilà, merci. Stéphane, tu es cofondateur du collectif Action Vérité avec Patrick, bonjour.
Bonjour, tout à fait.
Voilà, tu es venu toi aussi pour soutenir, je suppose...
Notre amie Blandine.
Patrick, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, donc on va évoquer assez rapidement cette semaine de ce qui est sûr, avéré et certain parce qu'on les connaît. Il y a la mort d'un enfant de 14 ans qui était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en Dordogne. Mmh. On a entendu tout n'importe quoi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour suivre l'affaire de manière très précise depuis un certain temps, j'ai tous les jugements sur mon ordinateur, je connais la maman. J'ai suivi les événements de cette semaine. Il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'on arrête de venir nous enlever nos enfants sur des présomptions et des soupçons et par des gens où on ne sait pas trop comment ça se passe, pour ensuite les retrouver pendus. Bon, on n'en dira pas plus. Blandine, on t'embrasse très fort. On pense à tout le collectif SAPA et on pense à toutes les personnes qui sont là. Vous voulez rajouter quelque chose ou on a fait le tour ?
Oui, j'espère qu'on va pouvoir agir pour la vérité et qu'elle soit sue de tous, parce qu'il faut que les gens ne croient pas dans les articles de presse qui sont sortis.
Alors,
ils sont mensongers.
Alors là, on ne va pas se traiter de complotiste, mais on va quand même dire ce qu'on s'est dit juste en off, juste avant, qui est une vérité bien établie. Quand on connaît un fait divers, qu'on a assisté à un fait divers et à un événement, qu'on en voit ensuite la retranscription dans les journaux, on se rend compte qu'il y a tellement d'automatisation, de travail un peu approximatif, qu'il n'y a jamais d'exactitude à 100%. Voilà, il y en a qui ont dit que le corps avait été remis à la famille. Non, le corps n'a jamais été remis à la famille.
Que la famille habitait à Sarlat,
oui,
ce n'est
jamais...
pas vrai.
Voilà, donc là, ce n'est pas du complotisme. Quand on vous dit vérifier,
c'est factuel,
c'est absolument factuel. Ce que vous avez par la presse généraliste, qui sont en fait des gens qui vont raconter ce qu'ils ont entendu et du pareil qu'eux, il y a forcément une distorsion et il faut en être conscient. Et c'est malheureux à dire, mais c'est presque un bon exercice voir concrètement.
Oui, puis les journaux, ils sont comme beaucoup dans l'urgence. Alors qu'autrefois, on prenait le temps de vérifier, il y a 50 ans, 70 ans. Aujourd'hui, ils ne vérifient pas. Il faut que ça sorte, il faut qu'ils soient le premier à sortir quelque chose. Donc, ils écrivent n'importe quoi.
Une rédaction, on en a une ici, on a 4 employés. On sait très bien comment ça fonctionne. Voilà. On a des dépêches qui nous arrivent. On a des communiqués de la préfecture qui nous arrivent. On ne peut pas non plus, nous, envoyer quelqu'un. Non. Aujourd'hui, en tout cas, Radio-Land Périgord ne peut pas envoyer quelqu'un sur place pour faire une enquête personnalisée. Il se trouve que par mon émission, je connais les protagonistes, donc je peux dire qu'effectivement, la retranscription est approximative. Elle est encore à venir, visiblement.
Oui.
Je vais rebondir sur l'émission qu'on a faite il y a 2 ou 3 semaines sur comment accepter l'inacceptable avec notre psychologue de Grenoble. Et le point qu'on n'avait pas abordé à l'époque, c'était sur le moment, il faut péter un plomb, il faut que ça sorte, il faut laisser sortir. Le processus d'acceptation, c'est plus tard. Voilà, ça on l'a vu des psychologues, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Bon, on va repartir maintenant sur le fond de manière générale. Stéphane, Patrick, qu'est-ce que c'est que ce collectif Action Vérité ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? D'où ça vient ? Dis-nous tout, là, vas-y.
Alors, le collectif Action Vérité a été créé en 2018, donc en octobre 2018.
Ah, comme équité parentale.
C'est pour ça que... En fait, à l'époque, je parlais beaucoup aussi avec certaines personnes qui font partie de l'équité parentale aujourd'hui. À savoir, comme on le fait tous, on découvre, on est victime, on ne sait plus comment faire. Et puis, à un moment donné, on décide de faire autrement. Et puis, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, qu'on a créé ce collectif de façon à pouvoir aider à accompagner ou assister les parents dans leur démarche auprès des juges pour enfants, auprès des travailleurs sociaux, auprès des départements s'il le faut.
Donc c'est un rassemblement en fait de personnes, c'est du soutien.
c'est surtout un rassemblement de personnes, c'est pas tout à fait le mot, c'est-à-dire que le collectif est doté de personnes qui travaillent dans différentes institutions, comme par exemple aux impôts, hein, suis-je pour pas les citer, ou à la sécurité sociale. Ce qui nous permet d'avoir des éléments beaucoup plus faciles, en tout cas d'accéder à des éléments beaucoup plus facilement, pour pouvoir mieux aider les parents dans les démarches qu'ils effectuent. Et surtout, de notre côté aussi, comme au tout début on s'est fait beaucoup avoir, de vérifier la véracité des propos que les parents nous donnent dans leurs dossiers, parce qu'on s'est déjà fait avoir sur des dossiers où on a défendu des parents dangereux.
C'est pour ça que moi, quand je parle d'un dossier ici, je demande les pièces avant et je vérifie tout. C'est tellement important.
Bien
parce
sûr,
que sur l'émotion, et de la même manière pour nos dossiers personnels, on demande toujours à quelqu'un de les relire. Pour avoir un deuxième avis, parce que des fois on est tellement saisi par ce qu'on y lit qu'il faut plusieurs regards, il faut vérifier. Voilà. Faut vérifier les siens et ceux des autres, c'est indispensable.
Ah, mais c'est très important, d'autant plus que nous, au tout début, on a pris pour argent comptant certains dossiers, on s'est laissé avoir très sensibilisé en tout cas par certaines situations, parce que tant que ça touche les enfants, forcément,
c'est émotionnel,
c'est très compliqué de refuser d'aider. Et c'est justement les deux premières situations qu'on a suivies où on s'est retrouvé à être mis en garde à vue. Et nous, on pensait bien faire. Et puis à l'arrivée, on avait tort. Mais par contre, les conséquences que ça a eu pour le collectif, c'est que à partir du moment où on a été mis en garde à vue, on est fiché. On passe par toute une série d'étapes, hein, relevé d'empreintes et tout ce qui va avec, ADN et tout. Mais surtout qu'on est fiché. Ça veut dire qu'après, dans les bonnes situations, on a défendu le parent vraiment, qui méritait d'être défendu et où les dossiers nous permettaient de dire qu'en tout cas, il y avait matière à permettre le retour des enfants. Et ben après, on était toujours jugés de la même façon. La police ou la gendarmerie, quand ils nous interpellaient, ils nous regardaient autrement. Hein, ils ne voulaient pas nous accorder la moindre, on va dire, la moindre crédibilité ou autre. Et ça a été très compliqué, très très compliqué. C'est pour ça qu'après...
Est-ce que ça a changé en 7-8 ans? Est-ce que vous avez...
Ça a beaucoup changé, non seulement changé, mais évolué. Oui. Parce qu'en fait, on est parti sur un accompagnement beaucoup plus, on va dire, pertinent, dans le sens où on allait à la recherche d'informations, mais on était de plus en plus de membres dans le collectif à aider, à être bénévoles. Parfois, il y a des situations où on a besoin d'avoir plus d'informations, comme par exemple pour certaines mamans, qui sont très affectés par des enfants qui ont des handicaps lourds. Et c'est pas facile d'accompagner les parents qui ont des enfants qui ont un handicap lourd, mais surtout qui sont pris en charge par la protection de l'enfance.
Alors,
c'est pas le même accompagnement qu'avec un autre, vous voyez ?
Absolument. Et on va rappeler aux gens qu'aujourd'hui, avoir un enfant handicapé, ce n'est pas comme il y a quelques dizaines d'années. Avoir un enfant handicapé, c'est voir arriver les services sociaux et il y a beaucoup de placements uniquement parce que les enfants sont handicapés. Et on va dire, pour soulager les parents, pour aider les parents. Et donc, le traitement du handicap, en fait, aboutit à des placements et des séparations de liens parentaux entre certains parents et certains enfants handicapés. Je vois Stéphane, peut-être, il veut intervenir sur ça. Je vois qu'il acquiesce de la tête.
Juste rajouter un petit truc au problème de l'enfant qui a un fort handicap. Et c'est vrai. L'essentiel au départ, c'est d'aider le parent.
Oui.
Mais surtout, là où c'est difficile, c'est quand le parent n'arrive pas à comprendre qu'il n'est pas en capacité d'aider lui-même son enfant, parce que ça demande beaucoup trop de prise en charge, de déplacement. Moi, je connais une maman qui s'appelle Kurobel, d'ailleurs. C'était 1200 rendez-vous qu'elle a eu dans l'année. Ça ramenait à presque 3 rendez-vous par jour.
Ou un peu plus de 4. Oui.
Ouais. Ouais, non, mais
si on compte les jours fériés, c'est énorme.
C'est énorme.
C'est absolument énorme.
Et
là, il faut le médicaliser, l'enfant. Mais le scandale, ce n'est pas forcément les cas comme cela. Le scandale, c'est que vous avez un enfant autiste ou alors vous avez un enfant séropositif. Vous pourriez très bien vous en occuper vous-même, voire avec un petit peu d'assistance, vous l'occupez. Et en fait, on vous le prend, on le met à 600 km, vous ne le voyez plus. C'est celui-là le scandale, par contre.
C'est juste pour finir avec cette Bien maman sûr. Qui faisait donc toutes les démarches tous les jours, qui avait demandé de l'aide. Mmh. On ne l'a jamais aidée. On lui a dit, vous faites comme tout le monde, vous amenez vos enfants voir les spécialistes. Et puis, arrivé jusqu'à un stade où, une fois que l'enfant était bien sorti de la situation, on lui a accordé beaucoup de temps et beaucoup de... elle avait beaucoup dépensé, en tout cas, pour sa santé. Que l'enfant allait mieux, c'est là qu'ils sont venus lui prendre. Et du coup, elle n'a plus jamais revu ses enfants. Et maintenant, ça fait pratiquement 4 ans ou 5 ans que cette situation avait démarré. Et aujourd'hui, on a une maman complètement détruite, alors qu'au début, elle demandait de l'aide.
Okay. Stéphane, sur le sujet du handicap dans les placements?
Alors, sur le sujet du handicap, justement, on a pu s'apercevoir que depuis plusieurs années, on avait plus davantage de tendance à placer des enfants qui étaient autistes. Oui. Beaucoup.
Oui, j'ai des retours sur ça.
Voilà. Oui. Et beaucoup d'enfants qui sont placés, maintenant, on leur trouve des troubles de l'attention, des TDAH.
Oui.
Et c'est en recrudescence. Bon, derrière tout ça, on a pu mener des petites enquêtes et des petites analyses qui nous ont amené à certaines conclusions. On va dire, vu les traitements qu'ils font aux enfants, on se pose des questions si c'est vraiment dans l'intérêt de l'enfant ou directement dans l'intérêt de leur portefeuille.
Alors, ça, c'est un vrai débat. Sans aller jusqu'au portefeuille, il y a une perversion de la société. Il y a une surmédication de l'enfance dans l'Occident. Bon, je le répète tout le temps, mais vous ne le savez peut-être pas vous forcément ici, mais j'ai vécu en Asie, et ils ne sont pas en train de shooter leurs gamins dès qu'ils crient un peu ou qu'ils ont besoin de courir. Quoi. Alors que quand j'étais gamin, on m'envoyait au terrain de foot ou dans les bois, et ça, le soir, je dormais bien. Voilà, c'était beaucoup mieux. On ne donnait pas du médicament comme ça. Ça vient d'Amérique du Nord, et effectivement, et ces surmédications, des fois, révèlent et créent des troubles de l'attention et du comportement. Alors, Hélène Lombard, tu t'es lancée en quelle année à peu près?
Moi, j'ai créé l'association Rendez-nous nos enfants.org, dont le site actuellement n'est plus visible parce que j'ai des difficultés avec ça, je ne suis pas très douée en informatique. Mm-hmm. Je l'ai créé suite au placement de mon propre fils. J'ai créé l'association en janvier 2013. D'accord. On m'avait pris mon fils.
C'est l'aîné, nous avons l'aîné ce soir, c'est toi.
Ah oui voilà. moi, ça fait 30 ans, 40 ans que je me bats pour l'application du droit.
D'accord.
Et l'administration m'a persécuté. Et le vol de mon fils est issu du fait que j'ai inscrit en faux, par 177 inscriptions de faux, les traités de l'Union européenne. Et j'ai démontré que l'Union européenne n'avait aucune valeur juridique. Donc pour me punir, on m'a volé mon fils le 23 septembre 2009. Et en 15 ans, je l'ai vu 8 heures. Maintenant, d'accord, il est majeur depuis juillet dernier et il refuse de me voir parce que vraisemblablement, bon, moi, c'est pas passé comme ça. Hein, je vous le dis depuis 8 mois, mais en 8 mois, je suis passée quand même en plusieurs étapes.
Hélène Lombard, réputation nationale, il y a un petit caractère.
On me dit qu'il faut attendre. J'attends. J'attends que. Mais en attendant.
Ils nous disent tous qu'il faut attendre, mais après, ils sont grands, hein, les petits. Après, ils sont retraités. Après, on n'est plus là.
Voilà. On ne peut pas transmettre notre savoir, etc. Par rapport au handicap,
oui.
J'aimerais me permettre de dire un truc, c'est que il y a un truc extraordinaire. C'est-à-dire que l'administration refuse de reconnaître l'handicap de l'enfant, refuse de donner les allocations aux parents, mais par contre, une fois que l'enfant est placé, tout d'un coup il est handicapé et le département profite des allocations. C'est quand même merveilleux. C'est-à-dire que le problème médical devient tranquillement social et tombe dans le giron de l'article 375 du Code civil, santé, moralité, et je ne sais plus quoi, ridicule, et comme par hasard, les sociaux ils se rendent compte que l'enfant est handicapé et que le département doit pouvoir bénéficier de l'AEH, de l'allocation, des allocations familiales, etc. Et je rappelle qu'à ce niveau-là, l'allocation familiale est donnée à des personnes selon leurs revenus et à des personnes des individus, des êtres. Alors que le département, qui lui est une institution et qui n'a pas de budget, enfin, il n'a pas un revenu, le département, c'est une institution.
C'est une personne morale, en fait.
Voilà, c'est une personne morale. Donc il n'a pas le droit de s'attribuer les allocations familiales. Le vol d'enfants est le truc le plus dingue. Et ça depuis 1958. Et vous allez voir, je vais essayer gentiment de vous expliquer des choses qui sont
vivantes. Bon, on va effectivement y aller gentiment. Hélène Lombard, on la connaît, c'est une militante de fond. Elle se bat sur plusieurs thèmes. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que avant d'ailleurs de s'intéresser au placement, elle s'impliquait déjà dans certains thèmes. Donc elle est effectivement, on va dire, multisectorielle.
Voilà.
Bon. Moi, ce qui m'intéresse, parce que j'aime beaucoup ici avoir une vision sociologique et d'analyse, vous, messieurs, vous avez commencé à vous intéresser à ce secteur-là. On va repartir sur les messieurs, on va faire un peu de bascule. Vous avez dit en 2017-2018. Moi aussi, je suis arrivé en France en 2014, j'ai découvert tout ça en 2016-2017 et j'ai commencé à militer pour les autres en 2018, début 2018. Est-ce que vous avez vu, comme moi, une évolution? Alors, Hélène va me le dire après, mais vous, en 7 ans, est-ce que la situation est la même qu'il y a 7 ans? Parce qu'à l'époque, moi, je voyais beaucoup de problèmes de divorce, on voyait arriver des gens qui se séparaient mal, et Après, quelques années plus tard, on a vu arriver des gens qui ne voyaient plus leurs enfants. Vous avez fait la même constatation, vous aussi ?
Tout à fait. Et ça empire de mois en mois. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de parents qui sont en colère maintenant, qui dénoncent leur cas personnel sur les réseaux sociaux. On est monté en chiffres au niveau des féminicides, des infanticides. Tout ça, c'était lié à la période du Covid, où malheureusement, des personnes vivaient ensemble et n'arrivaient plus à se supporter. Ils étaient contraints à vivre ensemble, et malheureusement, ça a continué. À côté de ça, on a pu constater que, au niveau des décisions de justice, il n'y avait absolument plus de contradictoires au niveau des tribunaux. Donc les gens ne sont plus écoutés, ils ne peuvent plus se défendre.
Les tribunaux de l'enfant, les JDE, le JAF, tout ça, nous on dit que c'est une matière qui n'est pas encore totalement rédigée parce qu'il n'y a plus de contradictoires, il n'y a pas de contre-pouvoir et en fait il n'y a pas de règles compréhensibles et précises.
Tout à fait. Et par mesure de précaution, justement, les juges placent davantage les enfants sous prétexte de les protéger. Ils ne peuvent pas participer à des conflits parentaux.
Ouais. Les conflits parentaux aujourd'hui prennent une très grande place dans les placements d'enfants.
Tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, comme les procédures perdurent, certains divorces durent jusqu'à 9 ans. On comprend tout à fait que la justice ne veut pas rendre les enfants.
Mais c'est qu'elle ne veut pas. Et en plus, c'est une instrumentalisation. Moi, j'ai plein de cas où on va au pénal porter une plainte et on sait qu'il y a 3, 4, 5 ans d'instruction. Et pendant ce temps, au civil, on attend de voir ce qui se passe. Et l'instruction étant de plus en plus lente, la justice étant de plus en plus lente, le système se pervertit.
Tout à fait.
Patrick ?
Oui, évolution il y a eu, certes, mais par la force des choses aussi, il faut quand même le relever. Il y a 10 ans en arrière, pour rester dans les dates posées tout à l'heure, effectivement, on avait des placements avec des manquements, certes, mais les parents avaient des droits. Si je reprends ma situation, moi j'ai démarré avec des droits.
D'accord.
Ma fille a été placée à tort, parce que je n'avais rien contre moi, en tout cas rien de possible et d'imaginable pour me trouver un quelconque défaut, autant sur la parentalité, autant sur la sécurité, autant sur la moralité et autres. C'est juste que j'ai eu une enfant, à ma grande surprise, à 48 ans, tout simplement, et on a décidé que je ne pouvais pas être le père de mon enfant. À partir de là, on a essayé de me la prendre et on me l'a pris au bout de 13 mois. Mais juste pour dire pourquoi l'évolution, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui place les enfants parce qu'il ne fait plus un véritable travail d'évaluation au préalable, comme les magistrats ne peuvent pas le faire. Et un magistrat, aujourd'hui, il gère entre, pour dire, 500, 600, voire 800 dossiers pour certains. On sait très bien que le chiffre maximum qu'on peut accorder à un magistrat pour faire un travail objectif et réaliste, c'est l'équivalent, le grand maximum de 300 dossiers. Ce qu'il faut rappeler aussi, le juge pour enfants aujourd'hui, il prend en charge les enfants placés retirés à leurs parents soi-disant en danger, mais il prend aussi en charge les MNA, donc les mineurs non accompagnés, ainsi que les enfants délinquants, dangereux ou autres. Si on prend les chiffres des syndicats qui nous ont été donnés, aujourd'hui on a quelque chose comme 76 000 enfants pris en charge par le juge des enfants délinquants. C'est pas rien. On est à plus de 52 000 enfants MNA. C'est pas rien non plus. Et on frôle les 400 000 enfants aujourd'hui sur mesure éducative concernant le domaine de la protection de l'enfance de parents soi-disant en danger. Donc si on prend l'évolution, il y a eu 5 magistrats d'embauchés en 2022, je crois, ou en 2020. Et derrière, on n'embauche pas les greffiers non plus. Donc le travail fait, l'importance du travail, le plus important du travail est fait par les greffiers.
Oui, ce sont eux qui tiennent le système, voilà. D'ailleurs.
Et donc, il n'y a pas eu d'évolution. Pourquoi aussi ? Parce que les travailleurs sociaux, ils sont saturés, ils ne peuvent pas faire un véritable travail. Donc, le juge accorde des droits, mais ils ne peuvent pas être mis en place. Vous prenez une salle de cinéma, il rentre 300 personnes, on est 900 demandeurs dans le même mois. Et on ne peut rentrer que 300 personnes, il y en a 614.
Moi, je suis persuadé que la communication médiatique qui culpabilise les parents, qui dit qu'en fait, le lien parent-enfant a très peu d'importance, de répéter en boucle que les parents n'acceptent pas les placements, qu'il faut aller sauver les enfants, que les familles sont des endroits terribles où on maltraite les gosses. Je pense que tout ça met en place des mécanismes où le nombre d'enfants placés augmente parce qu'aucun procureur, aucun juge, personne ne prendra le risque de dire qu'il ne le fait pas lorsqu'une dénonciation vient ou qu'une enquête est faite.
Alors moi, j'ai une autre version des choses.
Oui.
Si vous maltraitez un chien, vous allez en correctionnel. Si vous maltraitez une personne âgée, vous allez en correctionnel.
C'est relativement récent pour le chien, hein, plus que pour la personne.
Oui, oui.
Mais oui.
Mais attendez, vous allez voir. Si vous maltraitez l'enfant de votre voisin, vous allez en correctionnel.
Ouais,
mais
ouais.
Si vous maltraitez votre propre enfant, vous allez devant un juge civil. Et ça depuis 1958.
On va aussi en correctionnel.
Oui. Et c'est ça où ça ne va pas. C'est-à-dire qu'un même sujet doit être traité dans un même tribunal et non pas deux.
Et là, il y a trois. Très souvent, le JAF est en amont et on se retrouve avec trois. Parce qu'il y a une superposition de juridiction entre les trois.
Voilà. Ils ont créé un truc hybride entre le JAF et le correctionnel.
Ils ont créé. Et la situation
Non. Avant 58, 1958, le parent maltraitant, papa, maman, qui fait n'importe quoi, c'est lui qu'on écartait de la famille. Les enfants étaient protégés et allaient avec le parent bienveillant. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème parce que le problème était résolu. On mettait le parent malveillant en prison, on l'écartait, on lui dira tu verras plus les enfants, etc. À partir de 1958, ils ont changé de paradigme et ils ont dit on va avoir le droit, on s'autorise à avoir le droit de vous prendre les enfants sous trois critères démentiels, santé, sécurité, moralité, qui sont tellement vastes qu'ils ne signifient rien. Donc ça ouvre la porte à des accusations délirantes et qui sont sans fondement, parce que les parents ne sont pas maltraitants.
Et l'ordonnance de 45 devait normalement limiter l'intervention de l'État aux cas vraiment très forts et très particuliers, très prouvés, pas les cas superficiels.
Mais en 45, il y avait encore de la valeur morale. En 58, déjà, il y en avait beaucoup moins. Et donc, ils ont inventé. Et alors, les premiers à avoir subi ça, ce sont les Réunionnais. Et en 2016, quand ils ont poursuivi et qu'ils ont demandé à voir reconnaître leur génocide, on leur a dit qu'ils avaient été déplantés. Pas déportés, pas 12 000 kilomètres, ils ont été déplantés. Les parlementaires français, en 2016, ont dit aux Réunionnais qu'ils avaient été déplantés. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'à l'époque, ils plaçaient non pas les Réunionnais, ils étaient à peu près un peu plus de 2000, entre 1958 et 1984. À l'époque, en 2016, quand les politiciens ont dit qu'ils avaient déplanté ces pauvres Réunionnais, mais c'est 400 000, c'est 500 000, c'est 600 000 enfants qu'ils étaient en train de séquestrer à l'ASE. Donc ils n'allaient pas dénoncer le crime pour 3 000, parce qu'ils auraient dénoncé implicitement le crime pour tous ceux qui étaient déjà placés. Pourquoi? Mais parce que dans l'argumentaire que je viens de faire avec le chien, là, je voudrais en conclure les faits.
Vas-y, parce qu'il reste 5 minutes.
Ça veut dire que le chien voit actuellement, depuis 1958, ses droits mieux respectés que l'enfant. De plus, ça veut dire que le parent maltraitant, lui, il n'est pas puni, puisque c'est l'enfant qu'on arrache à sa famille, à ses frères et sœurs, à son environnement, à son chien, à ses copains, à son école, à sa vie. On le déporte. Et le parent, lui, s'il est maltraitant, hypothèse numéro 1, il est maltraitant. On lui enlève l'enfant qu'il ne peut pas supporter et qui tabasse. Il n'est pas puni, le maltraitant. C'est ça l'hérésie. C'est qu'en droit français, depuis 1958, le droit français est violé, puisque en droit français, on ne peut pas punir la victime. C'est pourtant ce que l'on fait en prenant l'enfant. Donc il faut revenir, c'est très simple. Moi, je dis aux policiers et aux gendarmes, arrêtez d'obéir à l'ordre du procureur, puisque la maltraitance pour tout le monde, c'est du pénal, et que c'est à vous, policiers et gendarmes, d'arrêter les parents, de faire une enquête, de vérifier les propos de l'ASE. Et les enfants, on les place chez les grands-parents, chez le cousin, le cousin, le temps de l'enquête. Et là, on va découvrir que tous les procès qui sont faits par l'ASE sont des faux en écriture majeure qui génèrent des transferts forcés d'enfants de masse avec des quantités d'enfants colossales.
Alors, on n'a pas forcément, dans l'association et dans les interviews que j'ai, la même grille de lecture que toi. Par contre, on te rejoint sur un grand nombre de points. C'est-à-dire que le droit de l'enfant est régulièrement absent des affaires qui nous proviennent. On n'en prend pas en compte. Nous, on estime que la CIDE, traité de Washington et autres, le disent, qu'un enfant, l'accès à ses parents est un droit. que pour l'enlever, il faut vraiment des motifs sévères. Exactement. Je vois régulièrement des affaires qui passent au pénal ici, où on fait des séparations entre le parent et l'enfant, y compris des mamans qui allaitent, le temps qu'on vérifie ceci ou cela. Donc le droit de l'enfant, effectivement, n'est pas respecté, et il n'y a plus ce paradigme du point de vue de l'enfant, et on sous-estime l'importance du lien entre le parent et l'enfant. Ça, effectivement, je le rejoins. Par un cheminement différent, mais effectivement, je le rejoins totalement. On est obligé d'avancer un peu. Ce que j'aimerais, c'est qu'on est tous d'accord ici. On voudrait tous que le monde aille mieux. On sait tous que ça va pas bien. Il y a une commission des affaires sociales là qui vient de publier son rapport, la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, qui était dirigée par Madame Laure Miller avec la rapporteuse Madame Isabelle Santiago. Rien que le sommaire. Allez, on va changer un garçon. Est-ce que l'un d'entre vous veut lire un petit peu le rien que le sommaire de ce rapport ? Patrick, peut-être, ou Stéphane ?
Alors, attends, ouais. Le titre, c'est quoi ? Alors, juste au-dessus, construction du droit de la protection de l'enfance d'un système caritatif à la législation étoffée, mais largement inappropriée. Inappliquée. Un système issu de la charité. Bon, alors ça, c'est toute l'historique...
Ce qui est intéressant dans ce rapport qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale, une politique publique en situation d'échec, une législation qui demeure légèrement inappliquée, des chiffres extrêmement préoccupants, des répercussions graves pour les enfants et la société dans son ensemble. Moi, j'invente rien, sur le site de l'Assemblée nationale. Deuxième partie, une gouvernance défaillante faute d'implication de l'État. C'est un peu la fête du slip. Là, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de règles qu'on comprend à l'avance. Une multiplicité d'acteurs impliqués dans la politique publique de protection de l'enfance. Il y a plein de gens. Il y a quand même 9 milliards d'euros par an, donc il y a des gens qui mangent aussi, très clairement.
Et 80% des signalements sont faits par l'éducation nationale.
Ça, il faut le savoir. Moi, j'arrête pas de le dire. Si vous vous fâchez qu'une instite ou une infinie, vous êtes en danger. Clairement, vous êtes en danger.
C'est sectaire.
L'État, premier parent défaillant de France, une politique déléguée aux départements sans moyens pour l'assumer. Donc, on tape sur les départements, mais on leur a quand même donné une patate chaude et puis ils doivent se débrouiller avec. Donc, après, ils s'adaptent et ils font ou pas. une implication inégale des départements, une politique publique qui avance à l'aveugle face aux données. On n'a aucun chiffre, on a informatisé nos prisons, on a informatisé nos écoles, on n'est pas capable de savoir combien d'enfants on perd chaque année dans ce pays, on ne sait pas combien d'enfants sont placés, on n'a pas les chiffres. Les chiffres qu'on a, ils sont, on n'est même pas sûr qu'ils soient vrais, mais ce n'est pas informatisé comme il faut. Enfin, ce rapport, troisième partie, le repérage et la prévention à la situation mise en danger, c'est une culture de la prévention impensée en France.
Et là, le lien avec la pauvreté,
il est extraordinaire et puis extraordinaire. Totalement injuste parce que, en fait, lorsque ces gens viennent, on devient pauvre parce qu'on est obligé de payer des sommes astronomiques qui ne sont pas déduites de nos impôts sur le revenu et de la CAF. Et donc, on a accès à la gratuité uniquement lorsqu'on n'est plus propriétaire, qu'on n'a plus de biens et plus d'économie. Donc, on devient pauvre. Mais on est confronté à ces gens-là, on est appauvri.
Oui, mais il y a aussi un truc, c'est qu'ils sont censés s'occuper des enfants maltraités.
Oui.
Depuis quand il faut être pauvre pour être maltraitant ? Les parents super riches qui balancent un billet de 500 balles à son gamin pour aller s'acheter une ligne de coke.
Mais l'enfant n'a pas besoin d'argent. L'enfant, il a besoin d'amour.
Lui, le parent qui fait il est maltraitant.
Mais
lui, on n'ira pas le voir. Et c'est ce qui était émis dans le rapport de la Cour des comptes d'octobre 2009.
Il nous reste 30 secondes.
Déjà ?
Oui. Patrick, si tu avais une proposition tout de suite à faire, demain, t'es ministre, tu fais quoi ? En 20 secondes.
Je sauve la protection de l'enfance.
Tu fais comment ?
Je lui redonne ses lettres de noblesse.
Tu recrées le ministère des Affaires sociales ?
Non. Je fais une refonte totale de la protection de l'enfance et je fais en sorte que ça ne soit plus la justice qui s'occupe de trancher si un enfant est en danger ou pas.
On déjudiciarise tout ce qu'on peut.
Ah, tout à fait.
Oui. Stéphane est d'accord. Il est d'accord aussi.
Rend les enfants. Moi, si j'étais au gouvernement, je dis vous n'avez plus de budget ? Vous rendez les enfants immédiatement.
Et puis on utilise...
Parce que c'est du génocide. Article 211.1 du Code pénal.
Ok. Messieurs, dames, merci à tous. À la semaine prochaine.
C'est trop court.
Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.